on est dans une série qui s'intitule « Éveil à la grâce ». Et donc, la grâce de Dieu, c'est plus qu'un mot, c'est plus qu'un concept. La grâce de Dieu, c'est tellement puissant que ça transforme des vies. Puis on va voir aujourd'hui que la grâce de Dieu, elle est indispensable. Alors, je voudrais, avant qu'on débute, saluer toutes les gens qui nous écoutent en ligne, spécialement les églises qui se sont joints à nous et notre église satellite qu'on accueille chaleureusement, l'église de la Haute-Gatineau à Maniwaki. Yes, en direct. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet pour vous parler de la grâce indispensable, vous savez, j'aime à me tenir à l'affût de ce qui se passe dans l'actualité. Hein? C'est un peu comme une seconde nature. T'sais. Et je voudrais vous confier quelque chose. Même si André Chartrand et moi, là, on est des partisans des sénateurs d'Ottawa. Amen! Oh, il y en a un autre. All right. On va se parler après. C'est bon, ça. Du renfort. Mais on s'intéresse quand même à ce qui se passe avec les Glorieux. Hein. Cette équipe a marqué l'histoire du Québec. Alors, c'est pas rien. Et cette semaine, ben non, je devrais dire la semaine dernière, parce qu'on commence une nouvelle semaine, on est dimanche. La semaine dernière, on apprenait que Nick Suzuki est devenu le plus jeune capitaine de l'histoire des Canadiens de Montréal. Oh, il y a des fans des Canadiens ici, hein? Wow, des fans qui ventilent. OK, pas pire, hein? La lettre C sur son chandail, là, c'est pas un aboutissement, c'est le début d'une aventure. Puis c'est sûr qu'il va avoir des défis, parce qu'il a été choisi pour remplir un rôle assez particulier. Et pourquoi il a été choisi? Bien, parce que justement, il y avait ce qu'il fallait pour inspirer puis donner le ton dans la chambre puis sur la glace. Donc, à quelque part, il méritait sa place. Mais la faveur, la grâce qu'il a reçue, c'est d'être nommé à 23 ans. C'est assez jeune pour être le capitaine des Glorieux, une équipe comme les Canadiens de Montréal. En fait, c'est le plus jeune capitaine de leur histoire. Et donc, certainement que lui, il voit ça comme une faveur qu'il ne méritait pas de recevoir, puisque personne ne l'a reçu avant lui. Bref, il ne méritait pas d'obtenir la lettre C sur son chandail. Il méritait de faire ses classes, de prendre du galon puis d'attendre son tour. Mais la direction a jugé bon pour lui et pour le bien de l'équipe de lui accorder ce titre, cette grâce, malgré son jeune âge. Et à cause de son âge, c'est une faveur qu'il a reçue, qu'il ne méritait pas de recevoir. Mais il n'y a pas seulement lui qui est bénéficiaire d'une grâce ou d'une faveur non méritée. En fait, un grand nombre d'êtres humains vont expérimenter au moins une fois dans leur vie une épreuve qu'ils ne méritaient pas, un bienfait qu'ils ne méritaient pas, une position qu'ils ne méritaient pas, un héritage qu'ils ne méritaient pas. Et aujourd'hui, on va voir l'impact de cette faveur non méritée, de cette grâce qui libère. Et je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le message de la grâce, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui n'est pas simpliste, mais c'est plutôt une réponse claire à un problème complexe. Alors, pour pleinement recevoir ce que le Seigneur a nous donné aujourd'hui comme contenu à méditer cette semaine, je vous invite à vous recueillir avec moi. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta grâce. Ta grâce est plus qu'un mot. On peut goûter ta grâce, recevoir ta grâce. Et on peut te dire, Seigneur, ayant connu ta grâce, du moins en partie, qu'elle est indispensable. Puisses-tu parler à nos cœurs, éveiller nos cœurs, nous rendre sensibles à ce message de la grâce, à ce message de l'Évangile, et que par ces paroles, tu puisses encourager, fortifier ton Église aujourd'hui. Je te le demande pour la gloire de Jésus et dans le nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai mentionné, la grâce de Dieu, c'est une bonne nouvelle qui n'est pas simpliste. C'est plutôt une réponse claire à un problème complexe. Mais pour bien comprendre cette grâce, c'est important de la définir parce que le mot grâce peut avoir plusieurs sens selon le contexte. Une ballerine, par exemple, peut démontrer beaucoup de grâce dans l'exécution de son art. Un coup de grâce, ce n'est pas toujours apprécié par celui qui le subit. Hein. Une frite grâce, c'est loin du concept de ce qu'on peut imaginer. Non, mais quand on entend le mot grâce, ça fait référence d'une personne à l'autre à un concept vraiment différent. Mais en fait, celui qui explique le plus clairement le concept de la grâce, le concept qui nous concerne, de la grâce du moins, c'est le théologien Wayne Grudem. Il définit la grâce comme étant la bonté de Dieu envers ceux qui méritent d'être punis. C'est la bonté de Dieu envers ceux qui méritent d'être punis. En d'autres mots, s'il n'y avait pas de grâce, l'être humain aurait juste une chose qu'il pouvait recevoir, c'est la condamnation. Il n'aurait pas accès à la bonté de Dieu, à sa consolation, à son engagement à tenir ses promesses, à nous soutenir dans les épreuves. Sans la grâce, il n'y aurait pas de joie. Il n'y aurait pas de bien-être, il n'y aurait pas de réconciliation. La grâce a beaucoup plus d'impact qu'on peut l'imaginer. Même dans un monde où on peut avoir l'impression que Dieu est absent, on peut quand même voir au travers nos désirs personnels les plus profonds, notre désir de changer le monde, de faire des réformes sociales, au fait de vouloir être aimé ou de vouloir aimer. Eh bien, vous savez... On aime le beau, l'être humain aime le beau, que ce soit à voir, à goûter, à sentir, on aime le beau. Et ça, c'est comme si Dieu avait placé en nous un soupir de vivre un monde parfait, un monde idéal. On soupire tous à avoir de l'impact, à avoir des relations significatives, à ne pas être un inconnu. Mais il y a quelque chose qui a gâché toute la sauce. Pas la sauce, je ne prononcerai pas celle que Sylvain a nommée hier, mais qui a gâché toute la sauce, c'est le péché. Mais la parole de Dieu nous révèle une clé importante. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il nous dit qu'il a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a comme un en dedans de nous, un désir de vivre un monde merveilleux, un monde où est-ce que la paix règne, un monde où on soupire à ça, mais on sait que sur terre, c'est pas possible, mais on cherche à s'y approcher de plus en plus. Mais à cause du péché, cette pensée de l'éternité qui est en nous, nous amène à rechercher la justice selon nos valeurs et surtout notre échelle de valeurs. Parce qu'on est en train de découvrir des réalités mais d'une manière faussée. Le péché fausse notre perception réelle des choses. Par exemple, certains placent la flore au-dessus de la faune parce que la faune contient des prédateurs. D'autres placent la flore et la faune au-dessus de la dignité humaine parce que l'être humain crée un déséquilibre dans l'écosystème. Ça, c'est juste des exemples qui démontrent qu'un système de justice peut varier d'un individu ou d'un groupe à l'autre. Cette justice est basée sur un idéal ultime conforme à notre conception du bien. Puis chacun de nous, on a une conception propre de ce qui est bien. Et même dans un couple, on a chacun notre conception de ce qui est bien. Et c'est souvent, on se chicane parce qu'on confronte, je confronte mon bien avec ma perception du bien, avec la perception du bien de ma femme. Souvent, on se chicane parce qu'on pense viser chacun de manière individuelle, une bonne chose. Alors, le problème n'est pas tant le bien qu'on recherche ou qu'on veut établir. Le problème n'est pas dans notre motivation, mais dans notre incohérence. Puis cette incohérence-là se trouve pas toujours dans notre discours, mais souvent dans nos actions. Par exemple, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. En d'autres mots, ce qui est vrai, ce que je crois vraiment, va se voir par mes actions. Si je prône l'amour, puis je fais du mal à ceux que j'aime, bien, ceux que j'aime n'ont pas accès à l'amour que je veux démontrer. Je vais vous donner un exemple concret qui me concerne. Dans ma vision du monde personnel, on est tous appelés à contribuer à réduire la pollution dans le monde. Alors, ma part, j'essaie de faire ma part. Donc, je voyage le plus souvent possible avec un scooter pour réduire les émissions de carburant. Alors, ma femme et moi, quand il ne pleut pas, on va au gym en scooter. Alors, je composte, je recycle. Je recycle même les bouchons de bouteilles en métal. Puis quand là, je prends une bouteille d'eau, je dévisse le bouchon pour qu'à l'usine ou le place où est-ce qu'on trie les choses, ça leur fasse moins de travail. Et puis, mais il y a une incohérence, même si je recherche le bien. Je roule vite sur les autoroutes. Ma femme me dit souvent, « Chérie, tu roules trop vite. » Oui, mais je vais arriver 3 minutes plus vite. Alors, qu'est-ce que ça révèle, ça? C'est que le temps, la gestion du temps, l'économie de temps a préséance sur ma valeur environnementale. À quelque part, c'est oui, j'aime contribuer à l'environnement, mais pas au point de ralentir ma vitesse. Je suis prêt à polluer davantage pour aller plus vite, pour en faire plus vite. Mes actions démontrent une limite à ma recherche du bien ultime que je vise, et même une certaine incohérence. J'ai réalisé dans mon adolescence, puis là, les jeunes, c'était dans l'ancien temps, ça, mon adolescence. Au siècle dernier, au 20e siècle, pour mieux vous situer, là, c'est quand Bono de U2 avait votre âge. OK? Dans ce temps-là, là, non, parce que... Nous, quand j'ai suivi ma formation pour être enseignant, on nous disait, au primaire, pour un enfant, la Deuxième Guerre mondiale, le Moyen Âge, l'Antiquité, quand sa grand-mère était jeune, c'est tout dans l'ancien temps, ça. Alors voilà. Bref, j'ai réalisé dans mon adolescence que le bien que je voulais faire, je n'arrivais pas à le faire. Et le mal que je ne voulais pas le faire, je le faisais malgré moi. C'était naturel. À un moment donné, Dieu m'a fait prendre conscience de ça. Je dis, wow, j'ai tellement des beaux idéaux. Je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas aussi bien que je voudrais. Puis le mal, c'est tellement facile. Je tombe dedans, puis, mais je n'aime pas ça. Mais je le fais pareil. Par exemple, je prônais l'authenticité, mais j'avais besoin de mentir pour bien paraître. Je me le permettais. Je prônais l'honnêteté, mais si je pouvais tirer mon épingle du jeu, je ne me souciais pas du processus, même si je devais contourner les règles. Puis à un moment donné, ça m'a déçu de constater ça, parce que j'ai réalisé que je n'étais pas aussi bon que je voulais en avoir l'air. Et je me disais, si les gens savaient tout de moi, ils seraient vraiment déçus. C'est plus tard, lorsque j'ai expérimenté une expérience spirituelle qui a changé ma vie, que là, cette incohérence a pris plus d'ampleur. J'ai vu l'ampleur de cette incohérence. Que le bien que je voulais faire, je n'arrivais pas à le faire aussi bien que je voulais. Puis le mal que je ne voulais pas faire, je le faisais très bien. Et j'ai vu qu'il y avait une incompatibilité entre ma perspective humaine et la perspective divine, entre celle de l'être humain et celle de Dieu, celle engendrée et incarnée par la personne de Jésus-Christ. Et c'est lorsqu'on est conscient de cette incohérence et de cette incompatibilité entre la perspective divine et la perspective humaine que le concept de grâce devient notamment indispensable. Dieu a rendu sa grâce disponible, mais... Le problème est que l'être humain évalue mal la disponibilité de sa bonté envers ceux qui méritent d'être punis. Pour bien comprendre l'incompatibilité entre la perspective humaine et la perspective divine, c'est important de démêler ce qu'on appelle dans nos milieux chrétiens, la grâce commune et la grâce salvatrice. Oh, ça, c'est un gros mot, salvatrice. Ou en d'autres mots, la grâce qui sauve, qui libère, et la bonté naturelle de Dieu qui se déploie chez les rebelles comme chez les fidèles. Alors, qu'est-ce que la grâce commune? La grâce commune, c'est la grâce que Dieu accorde à toute l'humanité. C'est celle qui nous permet de survivre la séparation de l'être humain avec son origine, de survivre notre condition de pécheur. On voit cette grâce dans différents passages de la Bible, notamment dans Matthieu chapitre 5, les versets 44 à 46, dans ce passage où est-ce que Jésus va déployer un sermon sur la montagne. Et Jésus nous dit dans Matthieu 5, 44 et les suivants, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? » Et donc, on voit ici qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Donc, qu'on soit chrétien ou non, on bénéficie de cette bonté-là, de ces bienfaits de Dieu. On voit également dans Acte 14 que Paul va parler à une foule, et dans la foule, il y a plusieurs non-chrétiens, et il va leur dire ceci, Acte 14, 16 et 17, « Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. » Il s'agit bien d'une grâce parce qu'elle est accordée librement, souverainement et sans consigne de la part de Dieu. Mais ce qui est important de noter, c'est que quoi qu'elle soit indispensable, elle ne joue pas un rôle direct dans le salut de l'humanité. Elle peut contribuer, elle peut nous éveiller la grâce commune, elle peut nous rendre sensibles à la présence de Dieu, mais elle ne sauve pas. D'après le théologien réformé Louis Burkhoff, la grâce commune limite le pouvoir destructeur du péché, maintient dans une certaine mesure l'ordre moral de l'univers, permettant ainsi à une vie ordonnée de se développer, distribue divers dons et talents parmi les humains, promeut le développement de la science et des arts et déverse de nombreuses bénédictions sur les enfants de l'humanité. La grâce commune revêt 4 aspects. Bon, évidemment, il peut y en avoir plus, mais les 4 principaux aspects, disons. Le soin providentiel, comme on l'a vu, la pluie, les ressources, le fait que les parents nourrissent leurs enfants. L'ordre, par exemple, il y a des lois qui sont mises pour justement condamner, freiner le mal. Le fait que les oiseaux ne nous attaquent pas les êtres humains. Parce qu'imaginez, les oiseaux pourraient se consulter, hey, on l'attaque aujourd'hui, ça va faire un bon snack. T'sais. Non, ça c'est la grâce commune, c'est Dieu qui maintient l'ordre. La conscience, Dieu nous a donné une conscience. Et c'est important d'être à l'écoute de notre conscience. Parce que ça freine nos élans, nos désirs, ça contribue à une réconciliation même. Et aussi les bénédictions, les bienfaits poussés par Dieu pour le bien de l'humanité. On le voit au travers des découvertes scientifiques, comme ce qu'on appelle par exemple les sérendipités. Ça, c'est des découvertes où est-ce que les chercheurs cherchaient un moyen, une solution, mais ils ont trouvé autre chose. Par exemple, le PDE5, c'est quoi ça? Eh bien, ça, c'était, on cherchait une formule pour détendre les vaisseaux sanguins. Puis, en faisant des tests, ils ont découvert que ça pouvait contribuer au bien-être mutuel des couples. Et donc, même si la grâce commune qui est accordée à l'ensemble de l'humanité, au travers d'une attention providentielle, au travers de l'ordre, au travers d'un effet sur la conscience, ou au travers de différents bienfaits, cette grâce commune se distingue de la grâce salvatrice. Celle qui sauve, celle qui libère, qui est à la base de la réconciliation, qui veut réconcilier justement cette grâce qui nous réconcilie avec Dieu. Alors, pour être épargné de la perdition éternelle, qu'on pourrait définir comme un mal de vivre sans fin, sans accès à la grâce commune, on a besoin de la grâce salvatrice de Dieu. Donc, la grâce commune, je le répète, ne sauve pas, ne nous libère ni de la sentence du péché, ni de la puissance du péché et ni de la présence du péché. Donc, elle ne nous donne pas accès à cet état de joie, de félicité éternelle. La grâce salvatrice, c'est la grâce qui te sauve, qui te libère de la sentence du péché, de la puissance du péché et qui t'assure un héritage éternel avec Dieu dans sa présence, où est-ce qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, où la paix, la sérénité, le bien-être, la quiétude seront les éléments de notre réalité, de notre quotidien éternel, parce qu'on sera libéré de la présence du péché. Moi, j'ai hâte à ce jour-là. J'ai hâte de vivre que, wow, il n'y en a plus de soucis, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de pleurs. On va être dans la joie éternelle de Dieu.
Amen.
Amen. Ça va être un moment glorieux. Et le fait de vivre ce moment glorieux, c'est un cadeau que Dieu veut nous faire vivre. C'est un cadeau que Dieu veut nous donner. Cette grâce est une faveur qu'on reçoit comme un cadeau. Un cadeau, ça coûte à celui qui donne, mais c'est gratuit pour celui qui le reçoit. Un jour, j'ai été témoin d'une scène. C'est un chrétien qui aide un non-chrétien. Il rend un service. Puis celui qui a été aidé dit à celui qui lui a rendu service, « Hey, je t'en dois une. » Avez-vous déjà entendu ça? « Hey, je t'en dois une. » Alors, celui qui l'a aidé lui a répondu, « Tu me dois rien. Je l'ai fait pour ton bien. » Sans attendre rien en retour, en échange. Ça, c'est la grâce qui libère. Dieu offre à celui qui découvre, qui est séparé de Dieu par nature, d'être justifié, d'être traité comme un non-coupable. Imaginez un père qui travaille fort, jour et nuit pour s'acheter une voiture électrique, OK? Une voiture qui ne fonctionne pas à essence. Et là, son fils lui demande de la conduire. Mais, à un moment donné, il fait la gaffe de texter au volant. Et là, ça cause un accident. Et la voiture, qui est toute neuve, est perte totale. Le père est triste, mais il est heureux que son fils soit sain et sauf. Puis quelques jours plus tard, son fils veut aller voir des amis. Alors, qu'est-ce qu'il demande à son père? Il dit, « Écoute, peux-tu aller me conduire à la gare d'autobus parce que je vais aller chez mon ami? » Il n'ose pas demander la voiture à son père. Il sait qu'il ne mérite pas de conduire sa nouvelle voiture maintenant parce que l'autre est perte totale. Il a dû s'en racheter un autre, contacter les assurances, etc. Et là, le père le regarde, puis il lui montre les clés. Et lui, le fils, il dit, « Ben, je ne mérite pas de conduire à nouveau ta voiture. » Il dit, « Prends-la. Prends-la. » Et là, on a une démonstration de la grâce de Dieu. Il ne mérite pas de l'avoir, mais lui accorde cette grâce. Et donc, le fils a bénéficié de la bonté du Père au lieu d'être puni. C'est ça, la grâce. Maintenant, c'est la même chose entre nous et Dieu. On ne mérite pas d'avoir accès à sa bonté, mais son désir, c'est de nous l'accorder. L'être humain a été créé à l'origine pour qu'on puisse bénéficier, jouir de sa présence, de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a à offrir. Connaissez-vous, par exemple, des gens qui sont généreux? Quand vous arrivez chez vous, c'est comme si, chez eux, c'est comme si vous vous sentez chez vous. Ils vous mettent à l'aise, vous vous sentez à l'aise. Il n'y a pas de contraintes, mais c'est ça que Dieu veut vivre avec nous, qu'on développe cette relation où est-ce qu'on soit de plus en plus à l'aise avec lui, même si c'est un Dieu saint. Maintenant, non seulement on a été créé pour jouir de la présence du péché, on a aussi été créé avec la responsabilité de vivre dans la présence de Dieu et d'en faire bénéficier les gens que Dieu a placés sur notre route. Mais tout a été gâché quand Adam et Ève se sont choisis eux-mêmes au lieu de choisir Dieu. Adam et Ève sont, selon la Bible, les premiers êtres humains à avoir vécu sur la terre. Ils ont été créés par Dieu et avaient pour mission de jouir de toute la création de Dieu sur terre, de la diriger et de se multiplier pour que toute la race humaine puisse vivre dans un environnement sain et paisible en communion avec Dieu. Dieu leur a donné une seule interdiction, pas 10, pas 613, une seule, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Ève a écouté la voix du malin, qui lui faisait miroiter qu'elle n'avait pas besoin de dépendre de Dieu. Elle pouvait dès maintenant agir selon sa propre perspective et devenir sa propre référence. Donc, elle a transgressé l'ordre de Dieu puis influencé son mari à agir comme elle. Donc, la conséquence, Depuis ce temps-là, la relation avec Dieu est brisée, la relation entre les êtres humains est brisée, la relation avec l'environnement est brisée, puis la relation avec soi-même est distorsionnée. Toute la création subit cette distance relationnelle qui s'est opérée depuis la séparation de l'homme avec son origine. La souffrance qui est dans le monde ne dépend pas de ce que Dieu a abandonné l'être humain, mais bien de ce que l'être humain a abandonné Dieu pour vivre pour lui-même sans vouloir dépendre de lui. Et pour vivre cette réconciliation, Dieu nous propose un plan selon ses termes. Parce que l'être humain recherche essentiellement à se sauver ou à être sauvable. Et c'est là qu'il y a un court-circuit. Parce que plusieurs pensent qu'en étant bon, qu'en évitant de faire du mal, en respectant du mieux qu'on peut son prochain, en étant un bon citoyen, une bonne personne, en étant serviable, généreux, attentif, chaleureux ou encourageant, on va aller au ciel. Plusieurs personnes vont dire lors des funérailles que telle ou telle personne va certainement être près du Seigneur parce qu'elle a été une bonne personne. Je l'ai souvent entendu. Moi, quand on m'a demandé, je me souviens de la date, le 14 janvier 1984. Ça fait longtemps, ça. Le pasteur qui me parlait me dit, « Est-ce que tu as l'assurance d'aller au ciel? » J'ai répondu à ce pasteur-là, « Je ne suis pas certain, c'est Dieu qui en jugera, mais je fais le maximum de bien que je peux puis je cherche à minimiser le mal que je peux faire parce que ce que je vise, c'est être sauvé. » Puis j'espère que je vais faire plus de bien que de mal pour que dans la balance, eh bien Dieu va peser et va dire, ouais, tu as fait plus de bien, tu passes. Tu sais, comme si, OK, tu as plus que 50%, tu passes. Ma vision d'être sauvé du châtiment éternel, de la condamnation qui pèse sur les pécheurs, ressemblait justement à une balance. Mais je savais, et là je ne faisais pas le lien, mais je savais que Jésus-Christ était mort pour mes péchés. Mais malgré ça, je pensais que moi, je devais contribuer à mon salut. Dans ma pensée, j'augmentais ma valeur en faisant plus de bien. Comme, hey, je vais être plus sauvable, je fais plus de bien. Je vivais comme si je pouvais m'acheter une place au ciel. D'autres vont croire qu'en faisant plus de bien que de mal, selon leur échelle de valeur, ils vont devenir sauvables ou désirables, comme s'ils devenaient une marchandise incontournable que Dieu ne pouvait pas laisser sur les tablettes ou qu'il ne pouvait pas jeter dans les poubelles, dans le lieu de la condamnation, parce que leur valeur provenait du bien qu'ils ont fait ou du statut qu'ils ont acquis. Plusieurs vont dire, comment un bon voisin ou un bon cousin ne peut pas être sauvé? Ça n'a pas de sens. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne pense pas comme nous. Et là, j'imagine peut-être des gens en ligne ou des gens dans la salle vont dire, « Oui, mais comment tu sais ça, Éric? Tu prétends-tu connaître la pensée de Dieu? » Mais moi, je n'ai rien inventé. Dieu a révélé à l'humanité sa pensée sur le sujet dans la Bible. Et là, j'entends une voix qui me dit, « Oui, mais la Bible, ça a été écrit par des hommes, pas par Dieu. » Oui, mais ce livre est inspiré de Dieu. Mais là, vous allez me dire, oui, mais n'importe qui peut dire ça. Oui et non. Premièrement, si j'avais à inventer un livre qui prétend révéler la pensée de Dieu, j'aurais inventé un monde selon ma vision du monde, selon ma perspective qui coïncide avec mes limites. En d'autres mots, il y aurait certains péchés que je n'aurais pas condamnés. Or, la Bible condamne toute forme de mal, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Un auteur bidon n'aurait pas condamné le mal avec autant de clarté et de précision. Deuxièmement, c'est un livre miraculeux qui a été écrit sur 3 continents par une 40aine d'auteurs sur une période d'environ 1600 ans, à l'époque où Internet n'existait pas. Imaginez, vous commencez à écrire un livre aujourd'hui en 2022, puis il se termine en 3622. Et qu'en bout de ligne, il y a 40 auteurs qui ont contribué, qui ne se sont pas connus, et on arrive en 3622, puis il y a une suite, puis il y a une cohérence, et on peut s'instruire de ce livre-là. Ça relève du miracle. Troisièmement, c'est le seul livre qui parle avec certitude de comment Dieu a prévu sauver les êtres humains de sa condamnation. Il nous sauve par grâce au travers d'une personne, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Quatrièmement, comme le dit si bien Lewis Perry Schaeffer à propos de Jésus, notre Sauveur, le héros de la Bible, « S'il n'était qu'une invention, alors il faudrait adorer et exalter l'esprit qui l'aurait conçu. » Inévitablement, Jésus appelle l'adoration. En d'autres mots, si l'auteur de la Bible a inventé une histoire et a inventé la venue de son héros, cette personne mérite l'adoration parce que son message est puissant, inspirant, cohérent et génère un espoir indétrônable. Amen. Dieu a choisi de condamner l'humanité et de sauver quiconque allait mettre sa foi dans l'unique Sauveur, Jésus. Dieu fait homme, mort et ressuscité des morts. Il a choisi de condamner le mal, le péché qui est entré dans le monde et portant sur lui le salaire du péché. Ça, c'est ses termes à lui. Dieu ne veut pas qu'on devienne sauvable, qu'on cherche à se sauver. Il a choisi de lui-même payer la dette de notre séparation avec lui. Ce sont ses termes à lui. C'est à lui que revient le mérite de nous sauver par cette grâce indispensable. En fait, cette grâce met l'accent sur ce qu'il a fait pour nous et non de ce qu'on peut faire pour lui. Il a voulu nous faire grâce, nous faire bénéficier de sa bonté en absorbant le coût de notre séparation d'avec lui, un Dieu saint, un Dieu qui a les yeux trop purs pour s'intéresser au mal. Il a voulu payer pour nous la condamnation du péché pour qu'il n'y ait aucun obstacle entre lui et nous. Sa grâce salvatrice, celle qui libère, nous donne accès à sa personne, à sa présence et à son royaume parfait, auquel chacun de nous aspire au fond de son cœur. La Bible nous enseigne que c'est lui qui nous sauve et que ce n'est pas nous qui devons chercher à se sauver ou à devenir sauvables. Parce que de toute façon, comme le dit si bien Charles Swindoll dans son livre « Éveil à la grâce », aucune réalisation humaine ne peut effacer la tâche intérieure qui nous sépare de Dieu. La Bible est claire et sans équivoque à ce sujet. Voici ce qu'elle dit, et on voit ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. » Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le salut est une grâce, une faveur non méritée. Les œuvres qui en découlent sont le résultat de cette grâce et non pas une condition. Oui, si j'ai connu l'amour inconditionnel de Dieu, je vais développer un plus grand amour envers ceux qui ne le méritent pas, envers ceux qui ne sont pas aimables. Dieu est clair, ses œuvres ne sont pas une condition pour être sauvé. C'est son œuvre à la croix qui me sauve. Ce sont les termes de Dieu. Il a opté pour que le salut soit par grâce, et cette grâce est indispensable pour être sauvé. C'est rassurant parce que le fait que Jésus-Christ soit mort à ma place me montre qu'il a choisi de payer pour nous au lieu de nous faire payer, qu'il ne me demandera jamais quelque chose que je suis incapable de faire, de produire ou de donner, et ça nous montre l'étendue de son amour pour moi, son amour pour toi. Imaginez qu'une femme quitte son mari, puis cherche à faire sa vie sans lui. Elle n'a plus de contact avec lui, sinon pour lui dire des bêtises ou pour lui demander des services. Puis là, elle finit par s'endetter. Elle ne sait plus comment s'en sortir. Puis son ex-mari la voit à l'épicerie. Puis par un concours de circonstances, il se retrouve derrière elle à la caisse. Elle arrive pour payer, mais toutes ses cartes de crédit sont pleines. Elle en sort une, elle en sort une autre, puis ça ne fonctionne pas. Excusez, madame, ça ne fonctionne pas. Et là, elle est humiliée, puis elle ne sait pas comment elle va arriver à quitter le montant. Son épicerie est là, elle veut manger cette semaine. Puis son ex-mari dit à la caissière, c'est moi qui vais payer ça. La femme est mal à l'aise parce qu'elle prend conscience du mal qu'elle lui a fait dans les dernières semaines, les derniers mois, par ses paroles puis par ses actions. Puis elle sait très bien qu'elle ne mérite pas ce cadeau-là. Elle accepte qu'il paye pour elle. Et arrivée à sa voiture, son ex-mari se met à l'aider à rentrer les sacs dans la voiture. Il dit à son ex-femme, « Sais-tu quoi? J'ai payé pour toi, puis je suis prêt à te reprendre, à repartir à zéro. Je vais payer toutes tes dettes, et tout ce que je te demande, c'est de revenir chez moi pour qu'on puisse rebâtir une relation. » Tranquillement. Puis elle, Elle prend conscience qu'elle ne mérite pas qu'ils veulent prendre soin d'elle. Elle voit la grandeur de son pardon, son amour pour elle et la valeur de ses gestes. Et cette illustration reflète le cœur de Dieu. La grâce de Dieu est un don gratuit qui lui a coûté cher. On le voit dans le jardin de Gethsémané quand Jésus est saisi d'angoisse d'aller mourir à la croix pour nous. C'est là qu'il allait subir à la croix notre condamnation et être séparé pour la première fois de son Père. Maintenant, quiconque met sa foi dans celui qui a pris sa dette et l'a payé à sa place à la croix et qu'il croit qu'il est revenu à la vie, vient de voir le prix de son accès à Dieu et vient de voir que cet accès à Dieu ne repose pas sur lui, mais sur celui qui a fait l'œuvre. C'est une grâce, c'est une faveur, une bonté offerte à celui ou celle qui mérite d'être puni, condamné. Lorsque Dieu a ouvert mes yeux et qui a permis que je reconnaisse que j'étais un pécheur, parce que c'est lui qui a ouvert mes yeux, et que le seul moyen d'accéder à sa présence éternelle était le fait que Jésus, le seul sauveur, Dieu fait homme, ait pris ma place à la croix. Cette grâce qui libère de la sentence du péché, de la puissance du péché et éventuellement de la présence du péché démontre que notre intégration dans la famille de Dieu est surnaturelle parce qu'elle ne met pas l'accent sur nos performances, nos exploits, nos accomplissements, notre bonté, notre générosité, notre gentillesse, nos talents, mais sur Dieu seul qui sauve. Cette grâce qui libère nous amène à jouir de la bonté, de la fraîcheur, de la vie abondante qui est en Dieu et révélée dans sa parole. J'inviterai les musiciens à s'avancer. Et j'aimerais terminer par quelques réflexions. On a tous été créés pour vivre une découverte de Dieu, une identification à Dieu, une complicité avec Dieu et une intimité avec Dieu. Puis lorsqu'on expérimente le salut selon les termes de Dieu, on découvre que c'est une grâce, un cadeau, un don gratuit qu'on ne mérite pas de recevoir. Ce don gratuit, ce salut gratuit, cet évangile de grâce n'est pas une destination, mais c'est un point de départ parce qu'aucune loi, aucun règlement, aucune interdiction ne nous donne la force d'accomplir ce que la sainteté de Dieu exige. La beauté de la grâce, c'est qu'elle ne se limite pas à me sauver et à m'intégrer dans la famille de Dieu. Elle demeure accessible en tout temps pour me développer spirituellement, relationnellement, intellectuellement et émotionnellement. L'évangile de grâce est à l'origine de ma croissance parce qu'elle se trouve dans la personne de Jésus-Christ. À chaque fois que je m'approche de lui en prière ou en consultant sa parole, j'ai accès à sa grâce pour recevoir de lui ce que j'ai besoin, pour apprendre à aimer, servir, donner puis mûrir. En résumé, expérimenter la renaissance spirituelle, ou ce qu'on appelle ici la nouvelle naissance, c'est expérimenter la grâce qui nous libère de la sentence du péché. Plus je communie avec cette bonne nouvelle de ce qu'il n'y a plus de condamnation, plus j'expérimente que la grâce me libère de la puissance du péché. Jusqu'au jour de la grande promotion, lorsque je serai convoqué dans la présence de Dieu. Et c'est là que j'expérimenterai que je suis libre de la présence du péché. La grâce nous ouvre la porte à débuter une vie selon ses termes, ses ressources et un partenariat avec sa personne. Cette grâce n'est pas un objectif, c'est le commencement d'une vie nouvelle et éternelle. Tout comme la lettre C sur le chandail de Nick Suzuki, la grâce n'est pas un aboutissement, c'est le début d'une aventure, d'une vie de foi, d'une communion avec Dieu, basée sur la parole de Dieu et sur l'œuvre du Christ ressuscité. Cette grâce est indispensable pour être sauvé selon les termes de Dieu. Elle est indispensable pour être libéré de la sentence du péché, de la puissance du péché, de la présence du péché. Cette grâce nous accordera une félicité éternelle où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, où la paix, la sérénité, le bien-être, la quiétude seront les éléments de notre réalité, de notre quotidien éternel, parce qu'on aura été libéré de la présence du péché. La bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu, cette bonté qui est donnée, octroyée à celui ou celle qui mérite d'être puni, ne sera jamais refusée pour cause d'indignité. Elle ne sera jamais refusée pour cause d'indignité. Que personne ne se trouve trop indigne de recevoir la grâce de Dieu. Savez-vous pourquoi elle ne sera jamais refusée pour cause d'indignité? Parce que c'est une grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas de recevoir. Cette faveur ne dépend pas de l'état de celui qui la reçoit, mais du cœur du donneur qui veut que personne ne se prive de cette grâce qui se trouve auprès de lui. Remercions le Seigneur pour nous avoir donné cette grâce indispensable à chacun de nous qui sommes sauvés par cette grâce. Prions. Levons-nous et prions, s'il vous plaît. Seigneur, on ne réalisera jamais l'ampleur de cette grâce. On en a une intuition, on en goûte une certaine dimension, une certaine teneur, mais si tu as été angoissé jusqu'à la mort dans le jardin, c'est que ça devait être intense. Toi qui es la paix incarnée, toi qui es la sérénité incarnée. Mais merci. Merci que tu as subi cette condamnation, cette séparation pour que une multitude d'hommes et de femmes puissent vivre cette vie éternelle qui commence aujourd'hui et qui se poursuit dans l'éternité. Seigneur, s'il y a des gens ici dans la salle, s'il y a des gens en ligne, s'il y a des gens qui réécoutent plus tard ce message, que tu puisses parler au cœur, ou tu puisses ouvrir les yeux comme tu l'as fait pour moi. C'est devenu évident. Je ne peux pas arriver à me sauver. Je ne suis pas sauvable. Mais toi, tu as résolu de me sauver. Tu sauves aujourd'hui. Tu pardonnes les fautes. Tu payes pour nos manquements, nos erreurs, nos péchés. Sauve encore aujourd'hui. Seigneur, que dans l'Outaouais, ce message résonne, retentisse et que ça puisse se répandre dans toutes les extrémités de la terre, Seigneur. Et je te demande un cadeau, une grâce, Seigneur, que nous, les Québécois et les Franco-Ontariens, ne méritent pas. Que tu nous accordes un réveil, Seigneur. Accorde-nous un réveil, s'il te plaît. On veut voir ce bâtiment s'agrandir. Pourquoi? Parce qu'on veut voir de plus en plus de gens qui vont te louer en disant, « Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Merci pour ce don gratuit. » Je te rends grâce que tu l'as fait goûter à tant de personnes et que d'autres puissent jouir de cette vie éternelle à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.